Bonjour amis auditeurs de l'émission Bien-être. Merci à Radio Grand Ciel de nous donner la parole à l'association Sève et aujourd'hui à Isabelle Jouc, énergéticienne, et Maude Fornaro, mère de famille.
Alors Isabelle, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, nous allons parler d'un sujet délicat qui nous touche tous, comment gérer les émotions avec les enfants.
C'est un sujet bien connu des familles.
Oui, pour situer le contexte, je vous propose de prendre un peu de recul, de brosser un tableau de la situation mise en place. D'un côté, vous avez le monde des adultes, que ce soit à la maison ou à l'école. Ce monde a des obligations, des horaires, un programme à mener, des concepts fermés, des principes indiscutables, du genre « l'enfant doit obéir, se plier au temps de l'adulte, sinon l'adulte stresse ». Il n'a souvent pas la disponibilité d'esprit d'improviser pour l'enfant. L'adulte est branché sur des objectifs qui lui aussi le contraignent. Bon, l'adulte s'y soumet, l'enfant doit suivre. L'enfant, bien sûr, je brosse un schéma général dans lequel vous ne reconnaissez pas, vous ne vous reconnaissez peut-être pas, et tant mieux pour votre enfant, mais avouons que je parle de la généralité. De l'autre côté, vous avez les enfants, qui sont, eux, en mode d'expansion sur tous les plans, physiquement et psychologiquement. À chaque instant, leur corps vit la vitalité de sa propre construction. À chaque instant, ils ont soif d'apprendre le monde par les regards, les jeux, leur contact avec les parents, l'imitation de leur environnement, leurs compagnons de jeu, les animaux.
Alors, si j'ai bien compris Isabelle, les enfants sont en pleine croissance, ils ont beaucoup d'énergie, ils découvrent la vie avec plein de passion, et les adultes, eux, ils sont très occupés avec toutes les contraintes face auxquelles ils doivent réagir.
Exact, c'est vraiment le dilemme. Vous reconnaîtrez ainsi qu'il y a forcément frottement entre ces deux mondes. Et c'est en même temps une nécessité et c'est une source de croissance pour les deux. Je vous cite un exemple. Votre enfant, par exemple, s'est construit un imaginaire dans lequel il est à fond investi. Il a passé du temps à poser des objets pour créer son histoire. Il est à fond dedans. Vous, voilà, votre objectif, c'est de lui faire prendre le train. À l'heure, pour l'enfant, l'arrachage à son monde est un drame. Il vous traite de tous les noms, de vilaine, il pleure, il trépigne par terre. Bah, chacun a sa raison dans son monde. C'est une manifestation émotionnelle d'autant plus intense selon le caractère de chacun. Et petite parenthèse, sans la développer, cette parenthèse, la quantité de sucre absorbée va jouer aussi sur la qualité et la quantité émotionnelle. Que ce soit sous forme de soda ou de bonbons. Mais je ne vais pas en parler trop maintenant.
Alors, si je comprends bien, Isabelle, je reviens à votre petit exemple. Ça, c'est quelque chose que connaissent toutes les familles, on va dire. Certainement, moi, je m'y reconnais. Certainement que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices doivent reconnaître là des scènes familiales où on n'est pas d'accord entre enfants et parents.
Exact. Alors, heureusement, beaucoup de pédagogues se sont penchés sur la relation, sur ce problème. Et notamment Jacques Salomé a écrit de nombreux livres pour exposer sa méthode ESPER qui développe les attitudes positives par opposition au système qu'il a appelé SAP. Et si vous voulez creuser cette question que je vais développer aujourd'hui, vous pouvez vous référer à ces livres. Alors, Un des fondements de pouvoir sortir de cette situation de conflit entre parents et enfants, c'est de reconnaître la réalité de la frustration de l'enfant. Confirmer que c'est normal qu'il ait de la peine, qu'il puisse se mettre en colère, la nommer, nommer les émotions que l'enfant traverse, nommer sa contrariété, reconnaître qu'il est dans la contrainte. Tout ça, ce sont des pas posés pour désamorcer le conflit qui peut naître et la tension qui peut naître entre le parent et l'enfant. Alors, si vous vous entendez, en reconnaissant ce que vit l'enfant, l'enfant entend et il se calme. Il comprend qu'il est entendu à part entière. Et malgré sa frustration de l'enfant, de l'instant, il peut construire la confiance dans sa valeur, dans sa personne, dans sa créativité. N'oublions pas que c'est le but à long terme, la construction de l'enfant dans les meilleurs atouts possibles. Par contre, nier le monde de l'enfant, en répétition, que ce soit toujours l'enfant qui ait tort, eh bien là, petit à petit, il va construire une dénégation de lui. Il faut se remettre dans le contexte, Maud. La survie du jeune enfant vient de l'attention de ses parents exclusivement. Pour lui faire plaisir et maintenir sa sécurité, petit à petit, l'enfant va faire toujours, il va affirmer qu'effectivement, il a tort. Il va installer une dévalorisation pour être conforme au schéma que lui présentent les parents par rapport à lui. Et cette dévalorisation va s'inscrire profondément comme un schéma qui se répète, même à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'il ait pris conscience qu'il soit dans un schéma de fidélité à ses parents, mais pas un schéma à lui-même. Ce complexe va le desservir, aussi bien dans son physique que dans sa vie affective et sociale.
Alors vous voulez dire que l'enfant, il a sa propre vision des choses dans son propre monde, et si cette vision des choses n'est pas reconnue, il va lui-même se dévaloriser.
Exactement.
Alors je me demande, en tant que mère de famille, à partir de quand est-ce qu'on peut considérer que ces désaccords et ces dévalorisations, ces émotions subies peuvent nuire à l'enfant?
Eh bien là c'est une grande surprise, mais la science découvre peu à peu que ce phénomène de mise en résonance avec les émotions des parents, leurs sentiments de valorisation de l'enfant ou non, elle commence dès la gestation. C'est-à-dire que si un enfant n'est pas désiré, si cet enfant gêne la situation de la mère, il va le ressentir et commencer de se faire tout petit et commencer de symptomiser, comment dire, c'est pas exactement le terme, par fidélité, il va développer une attitude de diminution. Mais enfin bon, c'est un vaste sujet, celui de la gestation, et je ne vais pas le développer aujourd'hui. Ceci dit, l'enfant, avant le langage, est totalement connecté à ses parents dont il dépend. Ainsi, il lit directement dans le cerveau des parents leurs sentiments, leurs émotions, leurs failles et leurs forces. Par contre, le bébé n'a pas les moyens de s'exprimer en dehors des pleurs et de la somatisation. Vous savez, depuis qu'on fait la communication facilitée, Maud, qu'on pratique chez les autistes, chez les handicapés mentaux, chez les jeunes enfants dont on veut en savoir plus, on sait que l'enfant, même s'il ne peut pas s'exprimer à un autre niveau, voit tout, comprend tout et sait tout, quelque part. Est-ce une conscience, une inconscience? Enfin, on a encore beaucoup à découvrir pour nommer ce phénomène, mais c'est une découverte qui déroute nos anciens concepts, mais les faits sont là. Alors, les textes, par exemple, obtenus par des handicapés, nous éclairent à 180% que nous n'avons rien compris, que la nature humaine est bien plus complexe, tant les textes qu'ils écrivent grâce à cette communication facilitée sont d'une intelligence supérieure, un peu du monde, de la lecture poétique du monde. Pour les bébés, c'est pareil. Françoise Dolto a été une pionnière dans ce concept que les bébés entendent tout et que la guérison de leur somatisation passait par l'explication de cœur à cœur des réalités environnantes. Et, de nombreuses fois, les bébés ont été guéris d'entendre la relativisation des événements. Et tout ça se passe à notre insu. La plupart des parents ne réalisent pas que leur enfant est quelque part déjà toute intelligence. Bon, les enfants, par contre, donc, dans ce contexte où ils ressentent tout, ils ont besoin de vider leur sac de toutes leurs tensions que nous leur communiquons, des ondes qu'ils subissent, notamment avec les portables et avec tous les phénomènes électromagnétiques, et les discussions qu'ils entendent toute la journée, surtout s'il y a eu beaucoup de monde dans la maison. Cette tension adulte peut gêner leur fonctionnement et ils éprouvent le besoin, de façon viscérale, de pleurer pour se libérer.
C'est le fameux pleur du soir, alors qu'ont beaucoup d'enfants, de bébés, je veux dire.
Exactement. On reviendra sur ce phénomène lors de l'émission prochaine sur l'endormissement des enfants. Ils pleurent. Finalement, c'est un moindre mal pour éviter la somatisation. Bon, je voudrais vous faire part de mon expérience personnelle et de celle de thérapeute pour vous faire comprendre combien il est important de donner une place dans la vie familiale à l'expression des émotions des enfants sans les nier, en leur disant ces phrases toutes faites du genre « un garçon ne doit pas pleurer », etc. Enfin, vous connaissez ces nombreuses phrases pour les avoir certainement entendues quand vous étiez jeune.
Absolument.
Imaginons que nous, en tant que parents, nous nous disputions souvent devant les enfants. Hein? Bon. Les enfants n'ont pas envie de nous entendre nous quereller, car ils sont moitié l'un, moitié l'autre. Nos disputes les déchirent profondément dans leur tissu. Si nous les faisons parler, si nous les faisons pas parler de cela, ou si nous ne voulons pas qu'ils commandent cette désagréable réalité, ils vont développer une carapace ou des troubles d'oreilles ou des infections ou même des problèmes dans les dents qui vont se trouver fragilisés jusqu'à faire des caries. Chaque émotion retenue se répand en information dans le corps. Si elle ne s'exprime pas dehors, malheureusement, elle s'exprime dedans. Bon, pour vous donner quelques exemples, notre dos porte notre histoire, il y en aurait beaucoup à raconter. Les dents, j'aimerais m'arrêter plus sur les dents. Elles témoignent de notre vie, beaucoup de livres sont en train d'être écrits sur ce que signifie chaque dent en tant qu'émotion refoulée. Et la dentisterie de pointe évolue vers une collaboration avec les thérapeutes pour faire exprimer et sortir les émotions. Surveillez ce qui est dit ou caché avant une otite. À quoi s'enflamment les oreilles? Vous ne pouvez plus entendre une fréquence. À quelle voix correspond-elle? Pour les yeux, c'est pareil. Je voudrais vous faire part de l'histoire d'une enfant dont la vue dégénérative a commencé dès 5 ans. Elle se préparait à perdre la vue. Et en fait, en regardant ses mémoires, elle avait programmé de ne plus voir parce qu'elle était élevée au biberon automatique alors que c'était une enfance surdouée. À partir du moment où on a pu faire sortir cette mémoire, frissons, micro-mouvements ont accompagné un changement énergétique. Et à partir de ce moment-là, l'enfant a pu être soigné par la médecine avec succès. Je pourrais donner de nombreux exemples de séquelles chez les enfants d'expression refoulée. Bon, mais tous ne vont pas jusqu'à somatiser. Et certains, comme on a beaucoup parlé Cyrulnik dans ses livres, certains vont développer la résilience qui va retourner leur choc en force et en direction de vie. Pour ma part, c'est ainsi que je suis devenue thérapeute par résilience par rapport aux maladies que j'ai rencontrées tout autour de moi. Bon, comment concilier ces deux mondes, voudriez-vous me demander, Maude? Eh bien, l'apprentissage de la relation qui passe par l'amour et la tendresse, apprentissage du lien dans la relation, mais aussi entrer dans le monde de l'enfant. Jésus ne dit-il pas de redevenir comme des enfants, c'est-à-dire être capable avec eux de sortir de notre temps pour découvrir cette vitalité qui crée l'instant. Et en tant que grand-mère, pour moi, c'est comme si je découvrais la solution. La joie nous habite. Eh bien, vivons la joie, tout sera occasion de vivre le rire. Au contraire, une phase de tranquillité s'installe chez les enfants. Nous la traversons ensemble, nous nous installons à l'intériorisation, au dessin ou autre activité sereine. La solution semble bien être l'amour, entrer dans leur monde, s'abstraire du nôtre et nous régaler avec eux de l'instant présent. Si nous pratiquons cette phase de transition, il est à parier que les enfants sauront plus facilement accepter nos obligations, comme un passage obligé qui ne brime pas dans l'instant présent. Maude, cher ami auditeur, j'espère que ces réflexions vont nous permettre d'être plus attentifs aux enjeux émotionnels qui se jouent dans nos rapports avec ces petits, qui sont, entre parenthèses, quelque part peut-être plus grands que nous en sagesse.
Alors merci Isabelle, et si j'ai bien compris, donc il faut prendre les enfants au sérieux, leur demander leur avis et le prendre en compte dans nos agissements et notre éducation. Et par exemple, s'il s'agit d'aller très vite prendre le train, il faut certainement leur expliquer pourquoi il faut qu'ils se dépêchent, pourquoi il faut qu'ils ne s'arrêtent pas à la fourmi qui traverse la rue et pourquoi il faut qu'ils suivent les parents et se dépêchent.
Très merci, bien Isabelle. Compris, merci à vous chers auditeurs.